L'émission de Francis Barrault sur la randonnée et la découverte de sites extraordinaires, c'est maintenant et c'est sur les ordres de Radio Galaxy 98.5. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Castoret. C'est un hommage qu'on va lui rendre. En effet, Norbert Castoret, spéléologue et écrivain français internationalement reconnu, est né à Saint-Martory le 19 août 1897 et il est mort à Toulouse le 20 juillet 1987. Cet homme était riche d'une vie scientifique, littéraire et sportive. Il écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages. Dans ses œuvres, il décrit les massifs de l'Arbas, mais aussi les collines de Saint-Martory, et surtout la Garonne, celle qu'il sauva d'une mort certaine, en démontrant par l'expérience scientifique et en colorant les eaux qu'elle prenait sa source donc en Espagne. Et oui, en effet, son expédition dans le massif de la Maladeta en 1931 va lui permettre donc de définir la source qui se trouve au niveau du Trou du Taureau. Il prouvera qu'après donc le Trou du Taureau, le cheminement se fera sous terre sous près de 4 km pour ressortir dans le Val d'Aran et creuser son lit dans notre territoire. Norbert Castoret, c'est aussi un ancien combattant de la guerre 14-18. Il s'illustra aussi aux côtés des forces secrètes durant la Seconde Guerre mondiale par ses connaissances en cachant au fond du gouffre d'Esparos, entre autres, des documents secrets et 6 tonnes d'armes à Monsonès. Mais son aventure la plus terrible fut certainement en 1952 avec Haroun Taziev, lorsqu'ils entreprisent la conquête du gouffre de la pierre Saint-Martin. Cette conquête, malheureusement, elle s'acheva quand le gouffre lui prit son meilleur ami, Marcel Loubens, qu'il gardera 2 longues années prisonnier dans ses entrailles, avant que Norbert ne le libère enfin, et ça c'était en 1954. Norbert Castoret fut un grand spéléologue et reconnu comme tel. Mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est qu'il est venu à la spéléo grâce à ses débuts qui ont été motivés par l'archéologie. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Les découvertes donc archéologiques qui ont eu une bonne place dans sa vie n'ont été qu'une succession de découvertes année par année. Bien sûr, au début, dans son enfance, je dirais, il s'intéresse aux petites grottes de l'Escalaire parce qu'elles sont des terrains faciles pour des exercices physiques et aussi parce que c'est près de chez lui, normal. Même là, il trouvera le moyen de ramener un tuyau de pipe en terre. Après, ses premières excursions sérieuses, on va dire, commencent à la grotte de Monsonès. Là, il va découvrir des ossements d'animaux. Chaque expédition dans cette grotte de Monsonès, c'est pour prospecter mais aussi faire toujours des séances de fouilles. Souvent en compagnie d'ailleurs de l'instituteur Cazedessus. Il ira aussi à Candis, dans les abris de la Roque, dans la grotte de Marsoulas et de Tarté. À cette époque aussi, il fréquente depuis longtemps le Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, et surtout la Galerie des Grottes, si soigneusement présentée par M. Émile Carteillac à l'époque. Son assiduité lui a valu un entretien personnel avec ses prestigieux préhistoriens. À Toulouse, il a été pris au sérieux et encouragé d'ailleurs. Toutes ces trouvailles, il les rapporte en principe au muséum et peu à peu, il devient non seulement un passionné, mais surtout un bon connaisseur. Et comme il dit toujours, c'est la préhistoire qui m'a conduit à la spéléologie. Et si je n'avais pas d'abord été préhistorien, je n'aurais jamais découvert Montespan. Dans cette grotte donc, je rappelle qu'il a découvert 2 félins en bas-relief, on va dire, très démolis mais reconnaissables quand même. Par la suite, donc, c'est en 1924, il conduit des recherches à Saint-Martory qui lui permettent de situer avec précision l'emplacement longtemps débattu de la cité gallo-romaine de Calaguris. Il découvre, de plus, l'existence de l'oppidum pré-gaulois, tout à fait inconnu sur le plateau de l'Escalaire à l'époque. Donc. En 1926, le voilà sur les sommets des Pyrénées, dans les cavernes glacées, qui sont un des spectacles les plus beaux et les plus rares de notre planète, dira-t-il. Ces grottes glacées sont, pour ceux qui ne connaissent pas, derrière la brèche de Roland, dans le coin du massif du Mont-Perdu. Après le 10 juillet 1930, dans la grotte d'Alkeriti, il découvrira des gravures rupestres. En 1931 aussi, à la grotte de la Bastide, il découvre des gravures et des peintures. Norbert Castoret est appelé à renfort avec son ami et collègue Louis Méroc par l'abbé Català. Ça, c'est en 1948. Pourquoi? Parce que l'abbé Català vient de pénétrer dans une grande caverne. C'est la caverne d'Alten, dans l'Aude. Ce dernier y a trouvé les traces troublantes d'une famille de Magdaléniens qui ont circulé là pieds nus. Et leurs traces sont donc recouvertes et recoupées par des empreintes de hyènes et d'ours de caverne. Norbert Castoret va vivre là une de ses plus grandes émotions de préhistorien. Il en parlera d'ailleurs de nombreuses fois dans ses conférences chaleureuses, d'où ses auditeurs donc enthousiasmés sortent avec la vive impression d'avoir passé, comme Castoret lui-même, une nuit avec l'homme des cavernes. En 1951 aussi, il découvrira la grotte de Tibira. Et ce jour-là, il a amené pour la première fois sa fille Marie. D'ailleurs, voici ce que dit sa fille au sujet du souvenir de cette grotte. Je suis très heureuse de parler de la grotte de Tibiran, tout proche de Gargas donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce fut ma première grotte où, pour mon initiation, papa me laissa toute seule pendant un quart d'heure. Il était ressorti dans la forêt pour y quérir une perche de châtaignier qui devait lui permettre d'atteindre des chauves-souris trop hautes perchées. Je n'avais pas encore 3 ans, mais j'en ai gardé le souvenir précis. Et pendant quelque temps, on m'appelait même à la maison Marie Tibiran. C'est aussi un 1er avril 1951, et ce n'est pas un poisson d'avril, qui découvrira les grandes gravures de la grotte de Bara Bao. Là, il est découvert avec sa fille aînée Maud. Voici ce qu'elle en dit d'ailleurs. Ce fut rapide, burlesque, passionnant, sans fatigue et presque sans mérite. Sauf celui de savoir lire l'écriture des Aurignaciens. Je pense d'ailleurs que c'est le rêve de tout explorateur ou spéléologue un jour de pouvoir découvrir un reste préhistorique. Mais découvrir souvent des gravures ou des peintures, ce n'est pas évident du tout. Il faut avoir un œil d'expert parce qu'on peut y passer devant et rien voir du tout. D'ailleurs, il faut savoir qu'effectivement, c'est du premier coup qu'il a détecté les vestiges à Tibiran. Mais qu'il lui a fallu à peu près une trentaine d'excursions avant de découvrir le cheval gravé. Et suite à sa découverte du cheval gravé, il y reviendra un grand nombre de fois dans cette grotte et il n'y découvrira rien de plus. Et il faudra qu'il arrive à sa 52e visite pour y voir la même préhistorique découverte par Jacques Jolfre, son fils spirituel, on va dire. Et pour clôturer, notre Norbert Castoret disait toujours: on n'est jamais sûr d'avoir tout vu sous terre. Voilà, nous arrivons à la conclusion de notre émission et nous pouvons remercier que Norbert Castoret, sur tous ses écrits et toutes ses découvertes qu'il a pu faire, reste toujours un peu rêveur, car on a tous au fond de l'âme cette envie d'exploration et de découvrir quelque chose de magique.